chapitre de l'histoire tchèque. David, allons.
On dit communément qu'il faut 20 ans pour qu'un événement devienne historique. Cette année, la révolution de velours entre donc dans la sphère de Clio. Retour aujourd'hui sur le Václav Havel président, à qui ses détracteurs ont souvent reproché son manque d'expérience en matière politique. C'est oublier ce qui fait la dimension d'un chef d'État, cohérence intellectuelle, sens de l'éthique et, si tout se passe pour le mieux, dimension culturelle. L'une des premières décisions du président Václav Havel au printemps 1990 est de nommer Rudolf Slansky au poste d'ambassadeur à Moscou. La presse tchèque parlera avec ironie d'exemple unique de l'humour tchèque. L'homme présente en effet un double désavantage politique. Ancien dissident et signataire de la charte 77, son choix peut provoquer des grincements de dents dans une Russie encore soviétique. Et puis auprès de la population tchécoslovaque, le nom de Slansky n'évoque pas que la charte. Le père, homonyme, de Rudolf, ancien secrétaire du Parti communiste, fit lui-même tomber de nombreuses têtes avant de finir exécuté lors des procès de 1952. Václav Havel démontre alors son indépendance d'esprit, transformant un authentique dissident en diplomate. Aux yeux des commentateurs étrangers, en tout cas, Havel est perçu comme un président atypique. Homme d'action et de culture à la fois, son parcours le place dans et en dehors des cadres d'analyse politique traditionnels. Tous ceux qui ont vu le documentaire « Citoyen Havel » se souviennent de cette scène. Lors de l'attente des résultats des premières élections présidentielles, Havel se met à réciter un poème et demande aux membres de son équipe de lui rappeler les vers oubliés. Il faut dire que la composition de l'équipe présidentielle reflète bien le parcours du président, fait de culture et de dissidence. Ainsi, Ivan Medek, chef du département des affaires intérieures de 1993 à 1996, était à l'origine critique et théoricien musical. Anna Fraimanova, secrétaire du président, était directrice au théâtre de la Balustrade, d'Ivadlo na Zabradli, où Havel, lui-même, officia dans les années 60, et éditrice de samizdat, comme le périodique Odi Vadley, sur le théâtre. Plus célèbre, Mikhail Kotsab deviendra député à l'Assemblée générale et conseiller externe de la présidence dans les années 90. Il avait été le fondateur du groupe de rock Praski Vibier dans les années 1980, que nous avons entendu en introduction, avant son interdiction par les autorités communistes. En novembre 1989, il fait partie, aux côtés de Havel, du forum civique qui négocie auprès du régime communiste.
Personne d'entre nous ne touche un salaire comme ces artistes-là. Par exemple, Madame Zagorova. Ses revenus, depuis les trois dernières années, dépassent 600 000 couronnes annuellement, sans parler des autres qui touchent 1 million, 2 millions.
4 mois avant l'écroulement du régime, Miloš Jakeš, secrétaire du Parti communiste, dénonce ainsi les artistes qui ont signé en juin le manifeste « Quelques phrases » écrit par Václav Havel. Il faut dire que, même après la chute du régime, l'équipe autour de Havel doit assumer son passé d'opposition. C'est ainsi de condescendance en tant que dissident dont parlera à ses propos Václav Klaus, premier ministre à partir de 1992. Il faut dire que sur la question de la période communiste, Klaus se présente comme le juge indulgent de l'inaction de la population durant le régime. Il fait penser au mieux à un De Gaulle réconciliant la nation avec elle-même après-guerre. Son parcours est à vrai dire bien différent de celui de Havel, qui rentre dans l'opposition ouverte au régime dès 1967 à l'occasion du congrès de l'Union des écrivains. Durant les années 60, Václav Klaus est plus occupé par ses études qu'il mène à Prague, en Italie et aux États-Unis. Homme clé de l'après-velours, Havel et Klaus incarnent deux visions opposées pour la toute nouvelle République tchèque. Certes, tous deux ont écrit durant les années 60 dans la revue Tvarge, hors parti, mais c'est le seul point commun entre les deux hommes, prénom mis à part, bien sûr. Dramaturge, intellectuel, Havel incarne une vision humaniste de la politique. Quand il inaugure la réouverture de l'Institut français à Prague le 9 décembre 1993, en compagnie de François Mitterrand, c'est un peu le symbole de deux présidents à forte dimension culturelle, une espèce aujourd'hui en voie de disparition. Formé à l'école ultralibérale de Milton Friedman, membre du tout aussi ultralibéral Institut Cato, Klaus est quant à lui un grand pragmatique en matière économique. L'image d'un Havel maladroit pour la chose politique est d'ailleurs injuste. C'est oublier que durant les années de dissidence, il fit preuve d'un sens très pragmatique de la stratégie pour lutter contre le régime. Par exemple, en prenant soin de ne jamais critiquer ouvertement le parti, mais en s'appuyant sur l'article relatif aux droits de l'homme, signé à contre-cœur par l'URSS, lors de la conférence d'Helsinki en 1975. Un légalisme qui, malgré les arrestations et la mort de Jan Patočka, a réussi à préserver l'existence de la charte. Tout au plus, le régime communiste a-t-il créé une anti-charte qui n'a trompé personne? Une constante éthique marque le parcours politique de Václav Havel, des discours de 1965-67, où il fustige le double langage, à la réunion du FMI à Prague en 2000, où il évoque la perte des valeurs. Cette continuité fait la cohérence intellectuelle du personnage autant que sa sensibilité humaniste. On l'a retrouvé récemment dans le discours que l'ex-président a prononcé à Cracovie en juin dernier, lors de la commémoration des 20 ans de Solidarność.
Domnívám se, že všichni si uvědomujeme, jak velký...
Je pense que nous sommes tous bien conscients de l'importance qu'a eu pour nous la solidarité internationale. Il me semble qu'il est de notre devoir, devoir des pays qui ont connu un système totalitaire, d'être solidaires avec ceux qui vivent dans les conditions d'un État autoritaire ou totalitaire.
Outre son action durant les années 60 et 70, c'est bien cette primauté de la morale sur la politique qui a conféré à Václav Havel son étoffe de président de la République. Auteur de Václav Havel, La force des sans-pouvoirs, Jean Pic l'exprimait très justement en ces termes, nous le citons. Cette question de la responsabilité est le fil rouge qui inspire son écriture et établit un lien entre l'auteur dramatique qu'il a été, le dissident courageux qu'il fut et l'homme politique qu'il est devenu. Havel n'est pas devenu dissident et chef d'État par hasard.
À demain sur Radio Prague, même heure, même fréquence.